crowd, we've got to ask ourselves, when will we ever do it? So this is the right moment.
Si on ne le fait pas maintenant, on ne sait pas quand on pourra le faire. Donc c'est le bon moment, le coup de poker de Boris Johnson qui lève aujourd'hui les restrictions sanitaires au Royaume-Uni malgré le regain de l'épidémie. On rejoint notre correspondante à Londres dès le début de ce journal. Et le variant Delta s'installe en France aussi. Pour l'endiguer, la société de pédiatrie recommande le pass sanitaire dès l'âge de 12 ans. Des milliards d'euros de dégâts, des politiques à revoir, les inondations s'invitent dans la campagne électorale en Allemagne. Et puis le maigre bilan des Français sur ce tour. Cédric Vasseur, le patron de l'équipe Cofidis, sera avec nous à la fin de ce journal. Juste après l'invité politique, il se tient prêt à jouer un rôle dans la campagne pour 2022 à droite. Mais quel rôle au milieu des Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, l'ancien négociateur de l'Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier, vient nous répondre dans un quart d'heure. Très bon réveil, vous écoutez Europe 1, il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, bonjour Lénaïk Monnier.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Ce matin, la Grande-Bretagne lève donc toutes ses restrictions sanitaires en coup de poker pour Boris Johnson.
Plus de masques obligatoires, ni dedans, ni dehors. Terminés les gestes barrières, fin des jauges au spectacle et au stade. Le gouvernement compte sur la vaccination pour limiter le nombre d'hospitalisations et de décès. Bonjour Anaïs Cordoba.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres. Finalement, toutes ces mesures sont levées au moment même où l'épidémie repart de plus belle.
Tout à fait. Hein. Les nouvelles infections ne cessent d'augmenter. Ce week-end, on a dépassé le cap des 50 000 cas positifs par jour. Et c'est du jamais vu depuis début janvier. À l'époque, ces chiffres avaient poussé Boris Johnson à imposer un confinement de 2 mois. Mais aujourd'hui, ce qui est différent, c'est que les hospitalisations et les décès se maintiennent, pour l'instant, à un niveau très faible. Et il faut dire qu'au Royaume-Uni, 70% de la population a déjà reçu au moins une dose de vaccin. Voilà pourquoi Boris Johnson ne veut pas reculer après avoir promis aux Britanniques un été de liberté. Mais c'est un pari. Hier, le Premier ministre a donc appelé la population à la plus grande prudence. Écoutez.
S'il vous plaît, faites attention. Passez à l'étape suivante avec toute la prudence et tout le respect nécessaire pour les autres et pour les risques que la maladie continue de présenter.
On entend l'appel à la prudence. Anaïs, on imagine les Britanniques entre excitation et appréhension, mais comment réagit la communauté scientifique?
Eh bien, beaucoup de scientifiques pensent que c'est un saut dans l'inconnu, hein, car avec le variant Delta, ce retour à la vie normale va faire exploser le nombre de cas. Selon les propres estimations du gouvernement, les nouvelles contaminations pourraient atteindre 100 000 par jour. Et certains scientifiques estiment que les hospitalisations pourraient augmenter à tel point qu'il faille potentiellement reconfiner. 1200 chercheurs ont écrit au gouvernement. Ils dénoncent une expérimentation dangereuse et immorale. Parmi eux, le professeur David King. Écoutez.
Cela va certainement donner lieu à une nouvelle vague de décès. Mais ce qui nous inquiète beaucoup, c'est aussi le Covid long. C'est un problème grave car ceux qui en sont atteints risquent des séquelles toute leur vie. Donc c'est une stratégie extrêmement risquée.
Voilà, et c'est un avis partagé par de nombreux Britanniques. Hein. Selon un sondage paru dans le Times ce matin, 55% des électeurs pensent que cette réouverture est prématurée.
Merci Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres.
Et la spectaculaire percée du variant Delta est aussi bien réelle en France. Hier, le porte-parole du gouvernement parlait d'un risque de tsunami viral.
On compte au total 12 500 nouveaux cas. À Bordeaux, un foyer épidémique a été détecté après une soirée dans un club de la ville. 21 personnes ont contracté le virus. Et Gérald Darmanin demande des contrôles des passes sanitaires accrus.
Le pass sanitaire qui sera au cœur d'un projet de loi présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, il ne concerne pas encore les plus jeunes, mais la vaccination dès 12 ans semble incontournable.
Oui, parce que la Société française de pédiatrie a revu sa copie. Virginie Riva, changement de braquet, elle considère désormais que le bénéfice attendu surpasse les risques.
Oui, pour elle, seuls les enfants à risque ou en contact avec des personnes immunodéprimées devaient être vaccinés. Mais sa position a évolué, d'abord avec l'explosion du variant Delta et puis surtout avec les premières données de pharmacovigilance arrivées des États-Unis. 52 millions de doses ont été administrées à de jeunes Américains âgés de 12 à 17 ans. Seul effet secondaire identifié, l'apparition de myocardite, inflammation du muscle cardiaque, de l'ordre de 1 pour 20 000 garçons vaccinés et 1 pour 100 000 filles. Un risque qui, pour Robert Cohen, président de la Société française de pédiatrie n'est pas supérieur au bénéfice de la vaccination.
Ces myocardites sont des maladies qui conduisent souvent à l'hospitalisation, mais qui n'ont pas eu de gravité propre, c'est-à-dire que tous les adolescents ont guéri dans des délais brefs, sans conséquences secondaires. ces myocardites surviennent uniquement à la deuxième dose.
Voilà pourquoi la Société française de pédiatrie recommande de faire passer systématiquement un test sérologique aux jeunes ados pour ne leur administrer qu'une seule dose s'ils ont eu le Covid récemment sans symptômes. Mais la vaccination, rappelle-t-elle, reste la seule clé pour une rentrée scolaire normale.
Les précisions de Virginie Riva, ce pass sanitaire qui sera demandé dès 12 ans à partir du 30 août.
Europe 1, il est 8h06, cette enquête à présent qui promet de faire du bruit, des centaines de journalistes, avocats et militants mis sur écoute.
Tous espionnés à leur insu par un logiciel israélien Pegasus. Leur smartphone complètement vidé de leurs données en temps réel, c'est ce que l'on apprend dans une très longue enquête réalisée par 17 grands médias internationaux, dont le quotidien Le Monde. Les explications de Laura Tauchanoff.
Plus d'une dizaine de pays, le Maroc, l'Arabie Saoudite, le Rwanda, tous ont utilisé ce même logiciel israélien, Pegasus, officiellement pour traquer des terroristes, officieusement pour espionner la société civile. Laurent Richard est fondateur de Forbidden Stories, l'une des deux organisations qui a partagé l'annuaire.
On voit un journaliste mexicain surveillé, dont on voit le numéro de téléphone et qui sera assassiné un mois après, et des États qui espionnent d'autres gouvernements, des chefs d'État qui espionnent leur propre épouse, des chefs d'entreprise qui sont sur le point de signer d'importants contrats avec d'autres pays et qui vont faire l'objet d'un espionnage. Donc ça répond à une question, c'est qui espionne qui dans le monde.
Et pour la première fois de l'histoire, il y a des preuves très difficiles à obtenir puisque le logiciel Pegasus dépasse tout système d'écoute téléphonique classique.
C'est tout simplement effroyable. Ils peuvent activer votre caméra, écouter vos conversations, ils peuvent lire aussi vos messages chiffrés, y compris sur les messageries chiffrées comme Signal ou WhatsApp. Mais le pire dans tout ça, c'est que vous ne le savez pas. Votre téléphone portable ne fait aucun bruit et n'affiche aucun indice suspect.
Tout au long de la semaine à venir, les noms présents dans cet annuaire seront révélés. Beaucoup de Français y figureraient, notamment dans le viseur du Maroc.
Les précisions de Laura Tauchanoff pour Europe 1.
En Allemagne, les inondations meurtrières s'invitent à présent dans la campagne électorale.
D'abord ce bilan, au moins 160 personnes ont perdu la vie dans ces inondations. Angela Merkel, qui était auprès des sinistrés hier, a appelé à faire un très grand effort pour accélérer les politiques sur le climat.
Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
Dans deux mois, les Allemands vont devoir choisir celui ou celle qui succédera à Angela Merkel, et cette catastrophe, vous nous le dites, vient vraiment bousculer la campagne.
Oui, ces derniers jours, les inondations ont balayé tous les autres sujets. Dès jeudi, le favori, le candidat du parti d'Angela Merkel, arpentait les zones sinistrées en bottes en caoutchouc. C'était d'autant plus naturel qu'il préside l'une des régions touchées. Mais en parallèle, Armin Laschet a multiplié les faux pas, ce qui pourrait lui coûter cher. D'abord, il est apparu très condescendant face à une journaliste qui lui demandait des comptes, à lui qui, par exemple, a prolongé la durée de vie des mines de charbon. Et surtout, ce week-end, il a été filmé hilar derrière le président allemand qui rendait hommage aux victimes. L'image a choqué au point que le candidat conservateur a dû présenter des excuses. De son côté, la verte Annalena Baerbock, elle a joué la discrétion, elle est allée sur place sans caméra. Avant le drame, elle perdait des plumes dans les sondages à cause d'une sombre affaire de plagiat. Mais le retour du climat sur le devant de la scène pourrait changer la donne.
D'autant Isabelle qu'en Allemagne, tout le monde se souvient des inondations de l'été 2002 qui avaient justement bouleversé la donne électorale.
Oui, le chancelier social-démocrate Gerhard Schröder était donné perdant par les sondages, mais quand la crue de l'Elbe a dévasté la région de Dresde, il a chaussé ses bottes et enfilé son ciré. Le Krisenkanzler, le chancelier de crise, comme il a été surnommé, a donné un sentiment de compétence, alors que son adversaire conservateur semblait déconnecté. Quelques semaines plus tard, Schröder avait remporté un second mandat. Forcément, les candidats d'aujourd'hui ont tous cette séquence en tête.
Merci Isabelle Horry pour ces précisions sur Europe 1.
Autre conséquence du réchauffement climatique, les incendies provoqués par la sécheresse.
Souvenez-vous, l'été dernier, on avait battu des records de chaleur et cela avait provoqué de multiples départs de feu. Des situations qui de plus en plus demandent de former les pompiers. Reportage dans le très boisé Loir-et-Cher avec Nicolas Fellmann.
Établissement avec 20 mètres entre chaque engin.
Quatre camions-citernes en file indienne. Au volant du premier, le sergent-chef, le padrin, casque sur la tête. À l'extérieur, deux sapeurs-pompiers en combinaison déroulent la lance à eau.
On est en train d'établir une ligne d'arrêt pour un feu qui arrive de notre droite. Donc on va essayer de le couper avec quatre lances à eau sur les quatre engins différents.
Ceci n'est qu'une simulation, mais ces situations en forêt, les sapeurs-pompiers du Loir-et-Cher ont dû apprendre à les maîtriser pour répondre au changement climatique. Le commandant Éric Cousin dirige les formations dans le département.
Depuis quelques années, notamment depuis 2015, où on a eu une grosse année de feux de récolte, donc associé également aux feux de forêt, Et donc là, on a accentué la formation de nos personnels. C'est quelque chose qui doit revenir dans les priorités. Donc c'est le cas depuis 3 ans. Donc on est sur une petite centaine de personnes formées à l'année et ça va perdurer. Et notre objectif, c'est certes d'éteindre le feu, qu'il parcourt le moins de surface possible, mais c'est avant tout que tous les personnels engagés puissent rentrer sains et saufs.
Car en plus des sapeurs-pompiers, ces interventions impliquent aussi les forces de l'ordre ainsi que des agents de l'Office national des forêts, eux aussi sensibilisés à ces questions.
Reportage signé Nicolas Feldman pour Europe 1.
Le Tour de France, et une nouvelle fois pour la deuxième année consécutive, c'est le jeune Slovène Pogacar que l'on a retrouvé en jaune sur le podium. Il décroche également le maillot jaune et le maillot du meilleur grimpeur.
Et les sujets qui fâchent forcément, on en parle depuis ce matin sur Europe 1. Le bilan des Français est assez maigrichon. Pour en parler avec nous, le directeur sportif de l'équipe Cofidis, équipe du premier Français au général sur ce Tour. Bonjour Cédric Vasseur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Votre leader Guillaume Martin termine donc 8e, premier coureur tricolore. Alors c'est un beau classement. Mais qu'est-ce qui manque encore, Cédric Vasseur, pour qu'on arrive enfin à avoir des Français qui bataillent pour le podium?
J'ai envie de vous dire pas grand-chose, parce que Guillaume a fait un super Tour de France. Il a été épatant. Il nous a régalé pendant 3 semaines en partant à l'attaque. On a pas mal de regrets sur l'étape d'Andorre, mais je pense que sinon c'est un parcours sans faute de Guillaume Martin, avec un tracé qui lui convenait pas forcément, avec une première semaine d'étape à bordure, avec un contre-la-montre plat. Donc on espère que Christian Prudhomme au mois d'octobre prochain va nous annoncer un Tour de France un petit peu plus sur mesure pour les qualités de grimpeur de Guillaume Martin. Et en tout cas, on fera le maximum pour améliorer ce classement et essayer de le faire progresser encore.
Cédric Vasseur, une seule victoire française sur ce Tour 2021. C'est au plus bas depuis 20 ans. Ce sont les circonstances de course, le tracé, ou est-ce que ça veut dire complètement autre chose?
Je crois que c'est un ensemble de facteurs. D'abord, le cyclisme est devenu vraiment un sport international. On le voit aujourd'hui en... On n'est plus dans une configuration de 1980 où les Français, les Italiens, les Belges avaient la mainmise totale sur le Tour de France. On a une vraie rivalité. On a les meilleurs coureurs du monde qui se mêlent sur les routes du Tour de France. On voit que Wout van Aert a gagné 3 étapes, Cavendish en a gagné 4. Bref, les stars, les gros cadors du peloton ont laissé des miettes aux autres. Et malheureusement, cette année, les Français sont un petit peu en deçà des attentes en termes de nombre de victoires, mais le comportement général a été bon.
Alors certes, il n'y avait pas Thibaut Pinot, certes, il n'y avait pas Romain Bardet non plus, mais on a l'impression peut-être, disent certains, en tout cas d'un creux de génération aussi. Comment est-ce qu'on fabrique un nouveau coureur français capable de rivaliser vraiment avec les vainqueurs sur le Tour, Cédric Vasseur?
Je crois que c'est un long processus. Il ne faut pas penser qu'on peut du jour au lendemain créer un champion capable de gagner le Tour de France. C'est vrai qu'il y a eu l'ère Bardet, l'ère Pinot. J'ai envie de vous dire que ça fait déjà partie du passé. On parle de Guillaume Martin, on parle de Gaudu aujourd'hui, on parle de Paré-Pin. Donc on a une nouvelle génération qui arrive. Il faut lui laisser le temps de progresser, de gagner en expérience, en maturité, en résistance. Maintenant, les structures françaises continuent d'évoluer aussi. On essaie de rivaliser. Je pense qu'en ce qui nous concerne, on a fait un grand bond en avant par rapport aux saisons précédentes. Et on est sur la bonne voie. Maintenant, de là à vous dire que l'année prochaine, Guillaume Martin va faire un top 3 du Tour de France, je ne veux pas me mouiller. Maintenant, si vous me donnez le contrat, moi je le signe.
Et on le signe aussi. Merci beaucoup Cédric Vasseur, directeur sportif de l'équipe Cofidis. Merci d'avoir été avec nous pour boucler cette grande boucle 2021 sur Europe 1. Très bonne journée à vous. À bientôt.
Merci.
Et puis soyons optimistes tout de même. Les coureurs français ont une occasion de se rattraper avec les Jeux Olympiques. La course en ligne, c'est déjà samedi. Vacances
Merci
de courte durée.
Merci beaucoup. Effectivement, c'était le journal de Lénaïque Monnier. Il est 8h14.